BFM Business, Focus Retail. Eva Jaco.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur BFM Business pour votre émission Focus Retail. Et alors que le secteur de la mode subit des turbulences et que les acteurs du prêt-à-porter moyenne gamme perdent du terrain, la mode premium, elle gagne des parts de marché. C'est notamment le cas de Kushten, marque de cachemire qui a su capter au fil des années une clientèle fidèle. Aujourd'hui, entre le développement de son réseau de boutiques et l'international, quelle est la recette magique? C'est ce que viendra nous expliquer sa cofondatrice Carole Benaroya. Et puis en deuxième partie d'émission, pour le pitch de la start-up, j'aurai le plaisir de recevoir Tony Pinville. Il est le cofondateur de Ritech, un acteur majeur de la data dans l'industrie du luxe, de la mode et de la beauté, récemment racheté par Luxury Insight. Ensemble, nous verrons dans quelle mesure les prédictions de tendance peuvent être essentielles aux stratégies des marques. Focus Retail, c'est parti.
Focus Retail, l'interview.
Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Carole Benaroya. Bonjour, vous êtes la cofondatrice de Kushten, marque que vous avez co-créée avec Stéphanie Erickson en 2012. À mes côtés, notre expert retail cette semaine, c'est vous, Isabelle. Isabelle Vantard, vous êtes la directrice des solutions Data Europe de Vusion. Alors, Kushten, c'est une marque spécialisée dans le cachemire avec un positionnement assez premium. D'ailleurs, vous bousculez les codes du cachemire, cette matière noble, mais qu'on peut parfois targuer de matière un petit peu vieillissante. Et ça a l'air de fonctionner puisque vous réalisez l'année dernière un chiffre d'affaires record. Comment est-ce que vous expliquez ça?
Déjà, la matière, certains disent peut-être qu'elle est vieillissante, mais c'est vraiment pas le cas. C'est du luxe. On vend du luxe, on vend du rêve. Donc, c'est une matière qui perdure depuis des dizaines et voire des siècles même. Donc, déjà, l'attachement à cette matière. Et effectivement, on a trouvé finalement un positionnement auprès de notre clientèle qui a à la fois ce luxe, mais cette authenticité. On incarne énormément la marque, on bouscule les codes. On est très audacieux dans notre marketing, dans nos collaborations, dans nos modèles, dans nos couleurs. On est toujours là où on nous attend pas. Et grâce à ça, on arrive à embarquer beaucoup de monde derrière nous.
Et on voit les chiffres sont impressionnants. 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. C'est une croissance de combien par rapport à l'année précédente?
On a fait plus de 50% d'augmentation du chiffre d'affaires.
Et comment vous l'expliquez ça?
Je pense encore une fois, il n'y a pas forcément une explication très rationnelle. Il y a beaucoup de travail déjà avec des équipes exceptionnelles. Donc ça, on est tous embarqués sur ce projet magnifique. Mmh. On a une vraie passion. Je pense qu'on a également ouvert des points de vente stratégiques sur des emplacements complètement et totalement premium. On a aussi une très bonne distribution, on a un bon développement online. Donc je pense que c'est un peu l'alchimie et la rencontre de tous ces facteurs qui font le succès de Kushten.
Alors effectivement, vous parlez de couleurs, de formes plus modernes aussi. Vous avez à peu près 50% de vos produits qui sont des intemporels.
Exactement.
Et puis vous avez beaucoup de nouveautés, beaucoup de capsules. Ça, c'est essentiel pour vous pour parler justement à votre clientèle, le fait de se renouveler. C'est ce que recherchent les clients?
Complètement. Ça, c'est vraiment le travail exceptionnel de mon associée Stéphanie avec le studio qui nous fait voyager toutes les saisons, parce que Kushten, c'est vraiment une invitation au voyage. Donc, finalement, il y a toujours des inspirations de pays ou d'ethnie ou de peuples différents.
C'est ce qui fait que vous avez réussi quand même à désaisonnaliser aussi cette matière.
Complètement. On fait quasiment 35% de notre chiffre d'affaires en printemps-été à présent, parce que justement, on va introduire des nouvelles matières, on va introduire toujours beaucoup de couleurs, ce qu'on a déjà fait, mais surtout effectivement la matière, on a du coton, on a du cachemire et soie, donc du mélange, on a du lin, mais toujours des matières 100% naturelles.
Oui, parce que vous avez ouvert aussi à d'autres matières comme le lin, le coton.
Exactement.
Finalement, le cachemire, ça représente quelle proportion de votre offre?
Ça reste quand même 90% de notre offre.
Oui.
On veut rester une maison de cachemire, nous sommes les spécialistes, c'est notre expertise, mais bien évidemment, on arrive à... Et on vend du cachemire en été, on vend du cachemire déjaugé. C'est du cachemire plus léger, dans des couleurs plus cool, mais on a toujours besoin d'un petit pull, donc de toute manière, toute l'année, on en vend.
Isabelle. Mais justement, comment vous arrivez à renouveler chaque saison sans perdre l'identité de la marque?
Ça, c'est tout le travail du studio. Après, c'est un talent. C'est encore une fois, c'est des recherches d'inspiration. Si on va réfléchir, on va faire beaucoup de brainstorming en interne sur des collaborations, des choses où on va pas nous attendre. Là, par exemple, on a fait le takeover d'une plage à Saint-Tropez où je me rends d'ailleurs après-demain, justement, pour l'inauguration. Donc, c'est toujours essayer d'avoir le petit coup d'avance et de surprendre.
Et d'être là où on ne vous attend pas. Alors,
exactement.
16 ans après la création, vous avez...
13 ans.
Ah oui, 13 ans, pardon. Oui, je vous vieillis. Vous avez 60 boutiques, la moitié
exactement.
De votre chiffre d'affaires est réalisé en France. Comment se partage votre activité entre le retail, le multimarque et le e-commerce?
On a grosso modo 60% sur le retail, 25% sur le e-commerce et 15% sur la distribution sélective.
Mmh. Et ces dernières années, est-ce que vous avez constaté des évolutions dans les tendances de consommation des clients ?
Alors en fait, à la sortie du Covid, tout le monde prédisait finalement la mort du retail physique, hein, du réseau. Nous, on n'y croyait pas du tout parce qu'on est né un peu comme ça, retailers. Nous, on a fait un peu l'histoire à l'envers. Beaucoup de marques ont été créées sur Internet et après en distribution en wholesale, hein, en distribution sélective, puis dans leur propre boutique. Nous, on a toujours cru en notre réseau parce qu'on est des ambassadeurs du savoir-faire du Cachemire. Et à la sortie du Covid, en fait, on a vu une explosion du trafic dans les boutiques parce que justement, cette privation que la population mondiale a eue finalement de pouvoir se promener, de pouvoir chiner, de pouvoir toucher, ça a fait vraiment l'effet inverse de ce qui était attendu, en tout cas par les experts, à savoir un retour au réseau physique. Mmh. Et je pense que c'est pour toutes les marques, hein, pas que Kuchten, mais tous les emplacements, les bons emplacements sont tous pris, les enseignes se battent pour être dans les meilleures rues. Donc moi, j'en suis très fière parce que c'est vraiment toujours un plaisir de faire les boutiques.
Alors, vous en parlez, effectivement, vous parlez des emplacements. Quel est le bon emplacement ?
Le bon emplacement dépend de la clientèle à laquelle on s'adresse, bien évidemment. Donc nous, vu qu'on va aller chercher une clientèle qui aime les belles choses, qui aime le cachemire, qui est sensible à ces choses-là, qui a quand même un pouvoir d'achat élevé, on va se situer dans les rues premium, en fait, les emplacements numéro un. Mais un emplacement numéro un pour Kuchten sera différent d'un Sephora ou d'un Adidas, par exemple. Donc en fait, il y a des typologies de rues qui correspondent à du mass market, du high street, les centres commerciaux. Enfin voilà, ça dépend vraiment de l'offre.
Majoritairement dans les centres-villes ou vous êtes aussi présent dans les centres commerciaux ?
Centre-ville. On est très peu présent en centres commerciaux.
Alors justement, Carole, vous évoquez quelque chose qui est quand même très important et ce qui se passe en ce moment dans le secteur du prêt-à-porter. Il y a cette fracture entre les enseignes premium, le luxe accessible entre guillemets, et puis les enseignes de fast fashion entre guillemets et de plus accessible. On a vu Mango annoncer cette semaine ouvrir 45 magasins en France. Quel est vous votre regard justement sur ce qui se passe en ce moment dans le retail, sur toutes ces marques, sur la chute finalement des marques moyenne gamme?
Je pense que les marques moyenne gamme, c'est pas le fait qu'elles soient moyenne gamme qui fait qu'elles chutent. C'est vraiment parce qu'il y a une lassitude, elles n'ont peut-être pas su évoluer, elles n'ont pas su... En fait, il y a une décorrélation flagrante entre le prix et la qualité, le value for money. Tout le monde le recherche en ce moment. Et c'est d'ailleurs un peu pour ça que des marques de luxe en ont pâti ces derniers temps, parce que les prix montaient trop à qualité constante. Donc, je pense que quand on arrive à se réinventer, à proposer des nouvelles collections et à avoir encore une fois un rapport qualité-prix que le consommateur final va comprendre, je pense qu'on résiste. Les marques qui souffrent en ce moment, c'est il y a une décorrélation entre le prix et l'offre et les attentes finalement des clients.
Isabelle. Oui, et justement, comment vous travaillez votre storytelling et votre image pour arriver à véhiculer aussi toutes ces la valeur, la qualité que vous pouvez proposer, le value for money?
Exactement. Alors, on fait très peu de dépenses marketing en tant que telle. En revanche, on communique beaucoup sur les réseaux et on va beaucoup communiquer via nos collaborations et via nos achievements, en fait, nos réussites. On vient d'être Bicorp, par exemple, il y a 2 semaines. Donc ça aussi, ça rassure finalement nos clients. On voit qu'on est une société engagée. On l'a toujours été depuis le début de Kuchten, mais on le disait pas forcément. Maintenant, au moins, on a le tampon, on a le certificat. On communique par nos emplacements, justement en étant toujours dans ces emplacements premium, le fait qu'on soit à côté de telle ou telle enseigne qui a une belle renommée, qui est une marque de luxe, on va rayonner un petit peu indirectement grâce à nos emplacements. Donc toute la communication, elle est faite autour de cette authenticité, du cachemire, de l'engagement, de la qualité, du craftsmanship, de la Mongolie. Bon, c'est vraiment le storytelling de la marque, en tout cas.
La cliente Kuchten, comment est-ce que vous la décririez?
Alors, il n'y a pas une cliente Kuchten, et ça, c'est la force de Kuchten et du cachemire en général, parce que finalement, tout le monde aime porter du cachemire, c'est doux. C'est cocooning, c'est réconfortant. Donc, moi, je dirais que la cliente Kuchten, c'est une cliente qui aime la liberté, qui aime les belles choses, qui aime se sentir belle, qui aime être réconfortée et qui aime beaucoup voyager également.
Et qui a tout âge. Est-ce que vous
tout
avez
âge.
Tout âge, votre clientèle, c'est aussi bien des jeunes filles que des femmes plus âgées. Vous avez un spectre assez large sur votre clientèle?
On a vraiment un spectre très large grâce justement à nos accessoires, que ce soit notre petit foulard Hachi.
Qui est devenu iconique.
Exactement. Mais nos mitaines, on en parlait avec Isabelle en, en studio. Les mitaines, les accessoires, les bonnets, voilà, toute l'entrée de gamme, on capte une clientèle très jeune qui connaissait pas du tout le cachemire. Donc justement, on commence un petit peu à les initier à cette matière. Et comme on devient vite addict et on peut pas mettre autre chose après, bah on les récupère à 20 ans. Les jeunes filles vont prendre les pulls de leur mère et jusqu'à 90. Enfin, c'est vraiment générationnel. On a beaucoup de petites filles, grand-mères qui viennent en boutique, notamment pendant les fêtes de fin d'année. C'est très agréable de voir ça.
Et comme vous dites, effectivement, ça permet de rentrer dans une marque premium, luxe accessible, avec un accessoire qui reste quand même abordable.
Exactement.
Alors, j'aimerais qu'on aborde aussi votre développement à l'international, puisque vous venez de mettre un petit peu les bouchées doubles sur ce vent-là. C'est 45% de votre chiffre d'affaires qui est réalisé à l'international, effectivement. Et d'ailleurs, avec une offensive très marquée sur les États-Unis, vous avez ouvert une boutique à New York. Vous réfléchissez pour en ouvrir une deuxième. Quel a été comment la marque est perçue là-bas?
Alors en fait, avant de se lancer aux États-Unis, on avait fait beaucoup de data et d'analyse. On avait constaté effectivement qu'on avait beaucoup de commandes des États-Unis sur notre site internet. On avait remarqué que dans nos boutiques touristiques, on avait beaucoup d'Américains. Donc on peut voir les chiffres de la détaxe. Donc c'est vraiment un outil très intéressant pour avoir la typologie des clients. Donc on savait qu'il y avait une appétence pour Kuchten et pour le cachemire peut-être en général. Le climat à New York, il est également très favorable, bien évidemment. Il y a beaucoup de très grandes enseignes de luxe et du cachemire qui étaient déjà présents à New York. Donc on est allé avec notre petit baluchon et on a ouvert effectivement notre première boutique sur Madison en septembre. Et il y a eu tout de suite un super bouche à oreille, un engouement sans communiquer, pareil, sans faire de marketing ni rien du tout. Mais déjà en placement numéro un, donc on bénéficie du trafic. Et finalement, d'une cliente qui l'a dit à son amie, ou une cliente qui était passée dans nos boutiques parisiennes ou européennes, en tout cas, ça a fait un petit peu effet boule de neige. Et c'est vrai que.
Et c'est une réussite.
Voilà, pour l'instant, c'est un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, c'est encourageant.
Oui,
très encourageant.
Mais justement, dans cette période où on peut tout acheter sur le digital, investir ces 200 mètres carrés, je crois, à votre flagship.
Exactement.
À New York, qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir un magasin physique par rapport à avoir le site e-commerce dans New York, enfin accessible partout?
Bien sûr. Bah, c'est vraiment ce que je disais précédemment. Je pense que l'importance du toucher dans le cachemire, de toucher la matière, quand on rentre dans la boutique, il y a le storytelling, les directrices de boutique sont vraiment formées, ce sont des experts du cachemire. Donc je pense que l'expérience en boutique, elle reste très différente d'une expérience sur le site internet, même si bien sûr on a un beau site également. Mais je pense que toucher, voir et être présent, ça positionne également la marque. C'est vraiment une avancée en parallèle. C'est pas l'un au détriment de l'autre, c'est les deux en même temps.
Et justement, pour continuer cette forte croissance que vous observez, comment vous arrivez à répartir vos priorités entre je développe l'offre, je continue l'expansion internationale ou j'augmente le nombre de points de vente dans chacun des pays?
Alors en fait, on maîtrise quand même notre croissance parce qu'effectivement, après, il y a des gros enjeux en termes de cash flow, de trésorerie, etc. Donc on se fixe un nombre de boutiques par an. Et c'est vrai qu'en 2026, ce sera vraiment les États-Unis notre priorité. Donc on a déjà mappé les villes où on voudrait être présent. On est en discussion avec des bailleurs. Donc voilà, l'international. Et comme on ouvre ce nouveau pays, on va à la fois investir sur le paid, donc sur Meta, les réseaux, pour avoir du trafic sur notre site internet et également sur les boutiques physiques, mais vraiment dirigées sur les États-Unis.
Merci beaucoup, Carole. Restez avec nous. Merci. On passe, sans plus attendre, au focus de notre experte.
Merci.
Isabelle, finalement, vous voyez en Kuchten l'incarnation d'une nouvelle forme de luxe qu'on appelle le quiet luxury, qui répond aux nouvelles attentes des consommateurs.
Ah oui, c'est un vrai basculement, puisqu'on va sortir de la logomania, le luxe qui était visible, vers un luxe qui se ressent, qui se vit, puisque le quiet luxury, c'est avant tout des matières premières d'exception, c'est un savoir-faire irréprochable mais non ostentatoire. Et on n'est pas sur un marché niche, puisqu'en 2024, on estime le marché à 137 milliards de dollars, avec une croissance annuelle de plus de 7%, et on estime même qu'il aura doublé d'ici 2034. Et dans le même temps, on a effectivement le luxe traditionnel qui s'essouffle un petit peu, puisque pour la première fois depuis 15 ans, en 2024, le luxe personnel a reculé selon Bain. Donc il faut trouver des retours.
Comment est-ce que justement les marques s'adaptent à cette nouvelle tendance de consommation ?
Eh ben, elles reviennent aux fondamentaux, le produit, la qualité, la provenance. Si on prend l'exemple du cachemire, qui est un marché de 3,6 milliards de dollars, qui est fortement drivé par l'Europe, puisque c'est 40% de la demande, on prend l'exemple de Kuchten, qui a décidé de privilégier le sourcing direct en Mongolie, et en étant de catégorie A, donc vraiment on mise sur la qualité, mais aujourd'hui la qualité ça ne suffit pas, il faut aussi prouver ses engagements, d'où on en parlait tout à l'heure, la certification B Corp comme Cézanne, puisqu'aujourd'hui on a besoin d'avoir des preuves, parce que 80% des consommateurs font beaucoup plus confiance aux entreprises qui prouvent leurs engagements, et à 66% ils sont prêts à dépenser plus. Donc on voit bien le shift du luxe vers quelque chose de visible sur quelque chose d'incarné.
Merci beaucoup Isabelle pour votre expertise. Sans plus attendre, on passe au pitch de la start-up.
Focus Retail, la start-up.
Et Tony Parville nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Sur le plateau de BFM Business. Alors, vous êtes le cofondateur d'Euritech, un pionnier de l'analyse d'images par intelligence artificielle. Alors, concrètement, vous faites de la prédiction de tendance pour les marques. Vous avez été racheté fin 2024 par Luxury Insight, spécialiste des études de marché pour le secteur du luxe, principalement. En une phrase, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Tony, quel est le problème majeur, finalement, de l'industrie de la mode? Qu'est-ce que vous cherchez à résoudre?
Oui, alors juste quelques chiffres, c'est que de manière globale, en fait, il y a 40% des produits qui sont pas vendus full price et 25% des produits qui sont invendus. Donc ça représente chaque année plusieurs milliards de dollars de vêtements invendus et donc un impact financier et écologique qui est vraiment énorme puisque plusieurs centaines de milliards de dollars de vêtements invendus chaque année. Et pourquoi en fait ces invendus? Bah beaucoup pour une question de mauvaise prédiction des tendances marché qui évoluent beaucoup, notamment grâce ou à cause de l'évolution des réseaux sociaux qui ont une influence majeure sur l'évolution des tendances marché. Et donc voilà ce qu'on permet à Euritech, c'est justement grâce à notre technologie, c'est de prédire ce qui va se passer jusqu'à 2 ans à l'avance et de permettre aux marques de produire seulement ce qui est nécessaire afin de réduire ces invendus.
Et justement, est-ce que vous avez quelques chiffres de réduction d'invendus? Qu'est-ce que ça permet aux marques d'économiser?
Oui, bah en fait, c'est souvent la métrique qu'on suit, c'est la métrique de sales through, c'est donc le nombre de produits créés versus le nombre de produits vendus. Donc on est à quelque chose qui vend très bas, même dans le secteur finalement du luxe, alors pas sur les produits iconiques, mais sur les produits plus classiques. Et donc ce qu'on leur permet, c'est de réduire ces taux d'invendus, justement en s'intégrant dans la chaîne de valeur, notamment sur la partie merchandising, qui est en fait pour chaque produit, combien je dois en acheter pour chaque région, pour chaque pays. Et c'est vraiment tout un enjeu majeur pour les marques pour réduire ces coûts, en fait.
Alors, c'est une solution qui utilise l'intelligence artificielle.
Exactement.
Quelles sont les données sur lesquelles vous vous basez, que vous analysez, en fait, tout simplement?
Oui, vraiment, l'IA, c'est vraiment l'ADN de notre entreprise. Moi, j'ai fait de la recherche avant en intelligence artificielle. Et en fait, ce qu'on exploite, c'est toutes les données marché issues des réseaux sociaux où on est, en fait, en mesure de faire des panel représentatif pour chaque pays, chaque région, ce qui nous permet d'avoir la matière à analyser. Mais ensuite, il faut être en mesure de identifier dans chaque image, chaque élément, des éléments qui sont cœur pour le secteur de la mode. C'est pas juste identifier, tiens, il y a un t-shirt sur l'image, mais quelle est la couleur du t-shirt, quelle est la forme du t-shirt, quels sont les modèles de sac à main, les modèles de chaussures. Donc, on est capable de reconnaître plusieurs milliers d'attributs liés à la mode. Donc, on travaille avec des experts de la mode pour justement être très pertinent à ce niveau-là. Et ensuite, on analyse chaque jour plusieurs millions d'images à travers le monde pour dire, voilà, justement, une petite info. Là, on a prédit que dans 22%, une croissance de 22% sur les big dots en Europe, c'est plutôt sur la segmentation Gen Z.
On fait des small dots, nous.
Voilà, et voilà, et vous pensez peut-être. Alors, justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que nous, notre objectif, c'est de donner une information sur la réalité du marché et sur l'évolution du marché.
D'accord.
Mais justement, ensuite, c'est en fonction de l'ADN de la marque, du positionnement de la marque, les décisions vont être très différentes. On est vraiment un outil d'aide à la décision.
Carole, vous, est-ce que vous utilisez comme ça des solutions similaires ou vous faites tout en interne par vos studios de création qui analysent eux-mêmes les tendances?
Nous, on fait tout en interne pour le moment, mais c'est très intéressant, ta start-up. Nous, on fait tout en interne et c'est vrai que, même au contraire, on va essayer de faire des choses qui n'ont pas été vues avant. Oui. Pour juste faire, c'est un peu les maisons de mode, en tout cas, qui se prétendent créatrices, lancent plutôt les tendances plutôt qu'elles ne les suivent. Donc, mais effectivement, c'est toujours très intéressant de voir quelles sont les tendances actuelles et comment ça évolue.
Oui, justement, pardon.
Allez-y.
Oui, un point sur ce sujet. Justement, en fait, nous, on est là pour fournir de l'information et pour des marques qui sont très edgy, très niche, ben justement, le fait de savoir que quelque chose est populaire, peut-être va leur dire de faire quelque chose qui n'a rien à voir.
Ah, oui.
Mais nous, on est là pour relater le marché et de montrer comment ça évolue le marché. Et si vous êtes une marque discount ou une marque fast fashion, vous n'allez pas avoir le même positionnement.
Oui, justement, parce que moi, je me demandais comment vous adaptiez vos solutions selon qu'on soit sur une marque historique, un groupe international, une marque en pleine croissance, mais assez nouvelle. Comment vous les accompagnez différemment?
Alors, juste vu qu'on est en fait en train de évaluer le marché, on n'adapte pas forcément la solution, mais c'est plus pour aider aussi les marques, en fonction de leur positionnement, à prendre des décisions qui sont différentes. Effectivement, par exemple, on travaille avec Nike, Uniqlo, là, leur objectif, c'est de vraiment produire seulement ce qui est nécessaire, surtout pour des marques fashion comme Uniqlo, donc d'être dans la tendance et de voir quelles sont les tendances qui sont déjà inscrites. Donc c'est vraiment l'exploitation de la donnée directe qui va être à ce niveau-là. Et on travaille aussi avec des maisons de luxe qui, potentiellement, justement, vont avoir ces informations-là pour ajuster les quantités, mais aussi peut-être produire quelque chose qui n'a rien à voir. Voilà, la data, on en fait, c'est un outil d'aide à la décision, mais ce n'est pas ça qui va driver la décision.
Alors, pour l'instant, vous travaillez avec des marques uniquement, mais vous allez annoncer un rapprochement avec un grand fabricant textile qui s'appelle Macalot. Qu'est-ce que ça va changer finalement de travailler avec un grand industriel versus de travailler avec une marque?
Notre objectif, c'est d'être présent sur toute la chaîne de valeur. Parce que pour l'instant, on s'adressait principalement aux merchandisers pour ajuster les quantités. Mais en fait, nos informations peuvent aider à n'importe quel moment de la création.
Au tout début de la chaîne, finalement.
Au tout début, pour justement avoir les tendances marché, vu que le délai de fabrication d'un produit, ça peut être, selon les marques, de 1 à 2 ans. D'où l'importance de prédire jusqu'à 2 ans à l'avance. Et de travailler en collaboration et d'être intégré dans la chaîne de valeur, plus tôt, ça apporte de la valeur aux entreprises. Et c'est vraiment ça aussi. C'est pas juste d'être une information chiffrée, mais ensuite d'être actionnable et donc d'être dans l'opérationnel.
Aujourd'hui, du coup, toute la donnée que vous traitez, ça vient de tout ce qui se passe online, c'est les réseaux sociaux, c'est Internet. On a parlé beaucoup aussi avec Carole du rôle des magasins physiques qui restent encore assez opaques. Est-ce que ce ne serait pas aussi le prochain défi demain de se dire comment j'arrive à récupérer ce qui se passe en magasin pour aussi identifier les futurs tendances?
Merci pour cette transition parce que c'est le projet qu'on développe en ce moment. Donc, on travaille beaucoup avec différents partenaires en France, justement pour combiner ces données marché avec les données de vente, des données de magasin, pour justement avoir cette valeur. Et donc, le fait aussi d'avoir ces tendances marché peut aider pour le visual merchandising, pour dire, tiens, dans le magasin à Paris versus Shanghai, on va pousser des produits, on va mettre en avant des produits qui sont différents. Parce qu'on s'est rendu compte que là, il y avait un épiphénomène, une tendance qui a émergé. Et donc, ça peut aider aussi dans l'élaboration dans l'élaboration dans un magasin, de pousser le bon produit au bon moment.
Merci beaucoup Tony Pinville d'avoir été avec nous sur ce plateau. Mais restez là puisqu'on passe tout de suite à l'actu de la semaine. Isabelle, cette semaine, l'actu du jour, c'est quand la distribution joue les grands chefs étoilés. Alors cette semaine, on a vu que Carrefour a créé la surprise en ouvrant un restaurant éphémère sans forcément dire à leurs clients qu'ils consommaient des produits Carrefour.
Oui. Fou. Bah oui, c'est fou, mais ça traduit bien un vrai changement, là encore, où on voit les marques qui veulent sortir du simple message publicitaire, où on veut vraiment beaucoup plus faire vivre des expériences, rentrer dans le quotidien des Français. Effectivement, Carrefour l'a fait avec la création de leur restaurant éphémère Le 50, dans lequel ils ont élaboré un menu gastronomique qui était incarné par Hugo Riboulet, un des gagnants de Top Chef 2023, et avec un menu constitué uniquement à partir des produits Carrefour, donc de la marque propre. L'idée derrière, c'est simple, ils ont voulu faire découvrir les produits sans mentionner l'origine. Et la stratégie, elle est forte, puisqu'on place les marques de distributeurs sur un autre niveau. C'est plus seulement de l'accessibilité prix, c'est de la qualité et de la désirabilité.
C'est vrai qu'on remarque que les marques se lancent de plus en plus sur des expériences. Qu'est-ce que ça dit, ça, exactement?
Ça veut dire qu'on est passé d'un marketing de promesses à un marketing de preuves. Maintenant, on a besoin de montrer. C'est ce qu'on appelle le show don't tell. Donc, Carrefour l'a fait avec la gastronomie. On peut citer aussi Watley à Amsterdam, qui a lancé un drive pour cyclistes, pour aller jusqu'au bout de leur engagement. Ou on a IKEA aussi, qui a fait leur bibliothèque Billy, qui est emblématique de l'enseigne, qui est devenue une bibliothèque où ils ont organisé des rencontres littéraires.
Et j'ajoute aussi Bonduelle, qui a ouvert un flagship à Paris avec ses produits pour les faire déguster au grand public. Finalement, le vrai succès ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'il se joue sur les réseaux sociaux.
Complètement. Le physique, c'est le départ de l'histoire digitale. Si on reprend Carrefour, c'est 1 million de vues en 24 heures, c'est 12 millions d'impressions sur le temps de la campagne. Et on a Jacques Mus aussi qui crée des boutiques éphémères, mais qui sont créées pour être photographiées, partagées, commentées. Donc en gros, ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on utilise les consommateurs pour qu'ils deviennent des propres ambassadeurs des produits.
Merci beaucoup Isabelle pour votre expertise. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission un peu particulière, puisqu'on sera en direct de VivaTech. Vous serez notre experte Isabelle?
Ça sera Jérôme.
Le retour de Jérôme. Jérôme, on a hâte de vous retrouver. Merci beaucoup et je vous souhaite un excellent week-end. À très vite.
Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.